franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, l'histoire de la découverte de Jupiter avec James Lequeux.
Oh ben, Jupiter a été connu depuis l'Antiquité, évidemment. Il suffit de lever les yeux vers le ciel pour le trouver. Hein. Ouais. Alors, il a fallu d'abord comprendre son mouvement, qui est assez bizarre, parce qu'on le voit avancer et reculer dans le ciel par rapport aux étoiles. Alors, ça a été très long. Les Chaldéens avaient déjà compris ce mouvement, mais pas son origine. Mm-hmm. Ils l'avaient décrit, disons. Les Grecs ont commencé à le comprendre. Mais en fait, on a vraiment bien compris tout ça qu'après les travaux de Copernic, quand ouais. Copernic a montré que c'était le Soleil qui se trouvait au centre du système solaire.
Ouais, donc l'héliocentrisme. Et alors, il avait quel outil, justement, Copernic ?
Ah ben, il avait son intelligence. Il avait son intelligence, ouais, parce qu'il n'y avait aucune, à l'époque, il n'y avait aucune autre observation que l'observation à l'œil nu, avec des instruments plus ou moins perfectionnés.
Mais c'est inouï quand même. D'imaginer déjà le système solaire avec en son centre donc le Soleil.
Et toutes les planètes apparaissaient comme des points lumineux, on n'avait aucune idée de leur taille, à quoi elles pourraient ressembler, etc.
Intuition géniale. Et puis évidemment Galilée, vous le disiez tout à l'heure, arrive avec sa lunette.
Il arrive avec sa lunette, qui n'était pas d'ailleurs sa lunette, c'était un Hollandais qui avait construit une longue vue destinée à voir l'ennemi de loin. Hein. Galilée est tombé en possession d'une de ses lunettes, qu'il a trouvée assez médiocre, et comme il était assez habile de ses mains, il a construit une meilleure lunette.
Ouais.
Et avec ça, il a trouvé toutes sortes de choses intéressantes, et notamment les satellites de Jupiter.
Ouais. Alors ça, c'est quand même un bouleversement quand même dans la compréhension de l'univers.
Personne
en quoi c'est révolutionnaire, justement ?
Eh bien, on ne connaissait qu'un seul satellite, c'est la Lune. Et le fait qu'il y ait d'autres satellites autour de planètes, ça a porté un coup fatal aux théories de l'immuabilité de l'univers, de la perfection des cieux, etc. Enfin, philosophiquement, ça jouait un rôle très important.
Ce qui va lui valoir quelques ennuis.
D'ailleurs, les gens n'ont même pas voulu croire. Ils disaient que ce qu'on voyait dans la lunette, c'était son invention, et il a fallu beaucoup de temps et d'efforts pour que les gens arrivent à se persuader que ce que disait Galilée était vrai. Ouais.
Mardi, la définition de la vie selon Claude Bernard avec Alain Prochian.
C'est surtout démarqué, je dirais, de Bichat. Hein, c'est-à-dire d'une forme de vitalisme tissulaire, comme on disait.
Alors ça veut dire quoi, ça ?
C'est-à-dire qu'il y a des principes vitaux qui luttent contre des principes de mort. C'est-à-dire que la vie, ce serait l'ensemble des forces qui luttent contre la mort, qui s'opposent à la mort. Et donc c'est une vision très thermodynamicienne des vivants. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une structure, et puis elle se défait par excès de désordre, etc. Puis à un moment, c'est la bascule.
Inéluctablement,
parce que ça s'use.
Il n'y a pas du tout cette idée d'alternance dont on parlait tout à l'heure.
Et ce que Claude Bernard amène comme idée, c'est qu'en fait, la vie, c'est la mort, et la vie, c'est la construction. C'est-à-dire que les choses meurent, mais qu'en même temps, elles se reconstruisent. Et ça, c'est une vision qui est complètement contemporaine, d'une certaine façon, et très très différente de la vision de Bichat.
Ouais.
Encore que Bichat est un immense savant, pas du tout, on n'est pas en train de donner des bons points.
Mais pourtant, vous dites qu'il y a encore ces deux visions aujourd'hui.
Oui, il y a encore ces deux visions.
Donc il y a deux écoles au fond de pensée.
Oui, d'une certaine façon, il y a deux écoles.
Il y en a plusieurs, mais bon.
Mais c'est vrai que, justement, à cause du livre, Schrödinger avec « Qu'est-ce que la vie ?» a apporté une vision très très physicaliste du vivant, mais très intéressante parce que quand on travaillait si vous travaillez sur le deuxième principe de la thermodynamique, bien entendu, vous avez quelque chose qui s'appelle l'information, qui en fait dérive du deuxième principe de la thermodynamique. La théorie de l'information, c'est une théorie qui dérive du deuxième principe de la thermodynamique.
Je vous crois.
Et donc, pour qu'un organisme reste dans sa forme, dans sa physiologie, dans sa fonction, il faut qu'il y ait une information qui soit dans le noyau et qui, ou pas dans le noyau, c'est une bactérie parce qu'il n'y a pas de noyau, mais qui fasse son boulot de maintenir l'ordre. Mmh. Et à travers cette vision, c'est comme ça qu'on a quand même développé toute la biologie moléculaire d'une certaine façon. La biologie moléculaire à ses débuts, toute la génétique moléculaire à ses débuts, c'est d'une certaine façon une théorie de l'information appliquée au vivant. Et donc,
mais elle vient d'où cette information, Alain Prochian ?
Eh ben, c'est-à-dire que pour naître un œuf de poule, il sort une poule, pas un canard. Jusqu'à ce que les physiologistes s'en mêlent. Parce que comme dirait Claude Bernard dans les principes de médecine expérimentale qui ont été publiés en 1947 par Delhomme, pour l'instant, l'évolution ne peut pas travailler dessus, parce qu'on ne peut que la contempler. Mais le jour où on aura compris les mécanismes qui permettent de construire les organismes comme les chimistes savent faire des éléments nouveaux à partir d'éléments anciens, alors on pourra expérimenter en évolution.
Mercredi, les stratégies mafieuses des coucous avec Frédéric Thomas.
L'exemple des coucous est particulièrement intéressant parce que donc effectivement c'est donc ce qu'on appelle un parasitisme de ponte. Les coucous sont donc des oiseaux qui vont pondre leurs œufs dans le nid d'autres oiseaux et qui font nourrir leurs poussins. Bon. Alors ce qu'il faut savoir c'est que chez les coucous d'Europe, effectivement, comme ça vient d'être dit, le coucou va expulser tous les autres poussins, mais chez d'autres espèces comme le coucou jet, en fait le petit coucou se fait élever avec les autres poussins, généralement une pie. Et donc là il y a eu des travaux fascinants il y a quelques années, publiés dans des grands journaux, qui ont montré en fait que le coucou utilisait une stratégie mafieuse pour obliger l'oiseau hôte à accepter et à nourrir le petit poussin. Alors comment ça se passe? En fait, la femelle va pondre un œuf dans plein de nids et elle passe régulièrement dans tous les nids voir si le petit coucou est bien nourri. Si le petit coucou est bien nourri, pas de problème, elle continue son chemin. Si le petit coucou est mal nourri ou a été tué ou sorti du nid, eh bien elle tue tout le reste de la nichée.
Incroyable.
Ce qui fait que pour la pie, c'est plus coûteux
De ne pas prendre soin.
C'est-à-dire c'est plus coûteux de ne pas nourrir le petit... Alors évidemment, c'est une bouche de plus à nourrir, donc c'est pas rien. Mais c'est plus coûteux de sortir le petit coucou. Donc en fait, on peut obliger quelqu'un à faire quelque chose en lui imposant un extra coût en absence d'obéissance.
Ah oui, c'est la mafia, quoi. C'est la vraie mafia.
Mais je me pose une question, c'est comment...
Mais ça sera pire si... C'est, voilà.
Comment la pie peut-elle savoir que si elle traite mal le petit, elle aura des représailles? Il y a un échange qui se fait au préalable ou comment ça se passe?
Alors là encore, c'est le résultat d'une coévolution entre des populations, si vous voulez, où la fréquence des individus accepteurs du petit coucou va augmenter si les individus ne coopèrent pas, ne nourrissent pas le petit coucou, forcément, la fréquence des rejeteurs va diminuer puisque leur nichée est éliminée.
Jeudi, quand le manchon empereur se jette à l'eau pour la première fois avec le plongeur Laurent Balesta.
Pour revenir sur ce mécanisme dont parlent Luc et Christophe avec des mots différents, de cette mécanique qui semble parfaite, etc. Ce qui est beau aussi, c'est qu'il y a un moment où... Pourtant, j'ai une formation de scientifique, mais on sent qu'à un moment donné, il y a une sorte presque de libre arbitre de ce poussin empereur qui arrive au bord de la glace et qui ensuite, on a la sensation qu'il y a une réflexion.
Ouais.
Parce qu'il est là,
mais
il va attendre.
Ça dure des jours, d'ailleurs.
Ah, mais là, je peux vous dire, j'ai mesuré.
Avant le premier plongeon.
Parce que nous, forcément, l'équipe terrestre attend sur la glace le premier bain, le premier plongeon qui doit être saisi. Voilà. Puis nous, on est bien obligé d'aller l'attendre dans l'eau. Donc là, c'était terrible. Et ça a pris plusieurs jours. Et ça, c'est ça. Donc je me souviens très bien de ce face-à-face. Moi, je suis dans l'eau. Et Yannick est à côté de moi. Nous sommes dans l'eau. On meurt de froid, littéralement.
Ouais.
Et les poussins empereurs sont au bord de la glace, regardent l'eau. Et la regarde comme ça pendant des heures et des heures et des heures avant de vraiment se lancer. On a l'impression que même eux sentent que ça va être dur quand même.
Christophe Barbeau, c'est vrai que c'est ce moment de réflexion du poussin pour son premier bain.
Réflexion, je pousse un peu loin,
l'anthropomorphisme. Mais... Exactement, mais quand même c'est saisissant parce qu'on le voit dans le film de Luc Jacquet, quoi. C'est incroyable.
Mais allez voir, on a l'impression vraiment qu'il y a une crainte, quoi. Qui est en partie justifié parce qu'ils ont quand même des prédateurs comme les léopards de mer à cette époque de l'année. Donc il y a quand même une crainte, je pense, de prédation qui est probablement instinctive.
Ouais.
Et puis après, il y a l'inexpérience donc qui fait que les premières plongées, elles sont pas profondes, elles durent pas longtemps et ça dure plusieurs semaines, plusieurs mois avant qu'ils puissent être à peu près autonomes. Quoi.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de la Tête au Carré.